C'est les Apatrides Anonymes, donc 19 novembre 2020 sur choc.ca. Votre rendez-vous bimensuel sur l'actualité migratoire, le délire identitaire, l'obsession sécuritaire, bref, sur Simon-Jolin Barrette. Toujours en direct dans les studios de la station à l'UQAM. Simon à l'animation cette semaine en compagnie des deux autres apatrides. Mathieu, salut Mathieu.
Bonsoir.
Et Marie-Ève, si elle est en mesure de dire allô, elle est à la console, on va la laisser se concentrer. Donc au menu cette semaine, Mathieu va nous parler de nos gouvernements, mais davantage sous l'angle des cibles en immigration pour les prochaines années. Quelques suivis sur plusieurs dossiers autochtones. Tu vas aussi nous parler de la France, donc Macron et sa gang de nouveaux ministres qui vont pas de main morte dans les déclarations incendiaires, les lois spéciales,
oui.
La ligne dure par les temps qui courent. Marie-Ève nous parle d'actualité au Royaume-Uni, entre autres sur les moyens d'expulsion utilisés par les gouvernements. Marie-Ève nous parlera aussi de délais autant à Québec qu'à Ottawa dans le traitement des demandes en immigration. Et moi, tout au long de l'émission, je vais ajouter quelques brèves locales et internationales, vous faire un mini-agenda d'activités culturelles et militantes. Et on vous a encore une fois choisi trois magnifiques chansons. Je commence tout de suite, avant d'entamer vraiment l'émission, avec une première nouvelle. On vous parlait de la Chine lors de la dernière émission et de la passivité des différents gouvernements internationaux devant le génocide du peuple ouïghour. Eh bien, du côté d'Ottawa, il y a eu quand même une évolution depuis la dernière fois. Tout d'abord, il y a un comité de la Chambre des communes qui a reconnu le Parti communiste chinois coupable de commettre un génocide envers les Ouïghours. Dans des termes très clairs, en nommant le phénomène, en disant le mot génocide. Donc, on sort tranquillement du mutisme. Espérons aussi que d'autres gouvernements emboîtent le pas et que ça se traduise par des actions plus concrètes au niveau diplomatique ou au niveau commercial, politique, on ne sait pas. Autre nouvelle qui va probablement mettre le gouvernement chinois en colère contre le Canada. Suite à l'adoption de la nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, Ottawa a décidé de faciliter l'immigration des Hongkongais pro-démocratie, notamment des étudiants qui fuient la répression ultra-violente. Les Hongkongais qui en font la demande auront accès à un nouveau permis de travail ouvert. Ceux qui sont déjà au Canada, peu importe leur statut, pourront rester pour l'instant en tout cas, et ceux celles dont la demande d'asile a été rejetée récemment pourront faire une nouvelle demande d'évaluation des risques avant renvoi. Il faut dire que le contexte a rapidement évolué à Hong Kong. Dans une minute, on va retrouver Mathieu qui va nous parler de la France. Tout ça, c'est sur choc.ca. Avant de céder le micro à Mathieu, qui va nous guider dans les arts et les marbres de la République, on s'en va en France, comme tu peux le confirmer.
Dans les fauteuils Louis XV.
Merci. Donc, avant de te céder le micro, juste peut-être plugger une petite, un document. Bref, tout d'abord, il y a un regroupement de plusieurs associations, je vais les nommer, c'est Groupe SOS Solidarité, France Terre d'Asile, Forum Réfugiés COSI, la CIMAD et Solidarité Mayotte, qui ont publié un rapport conjoint sur les centres de rétention en France en analysant les données de 2019. Ça donne des constats accablants sur les politiques d'enfermement et d'expulsion. On apprend entre autres que la France est le pays européen qui enferme et expulse le plus, et les tendances sont à l'augmentation de l'ordre de 20-25% annuellement. En 2019, c'est 50 000 personnes migrantes enfermées. La durée des détentions a doublé. La moyenne est maintenant de 3 mois. Ça a pas l'air beaucoup, mais ce l'est...
ça a doublé.
C'est ça, pour les gens qui vivent ça. La détresse, les gestes désespérés augmentent beaucoup selon les observations. De plus en plus d'enfants enfermés. Donc voilà, pour un portrait plus complet, je vous invite à aller télécharger le rapport dans le site internet de la CIMAD, qui est lacimad.org. Sinon, manifestation peu médiatisée le 17 octobre dernier. Des dizaines de milliers de personnes à Paris ont marché vers l'Élysée pour demander la régularisation de toutes les personnes sans statut. C'était le point final de plusieurs autres cortèges qui s'étaient formés dans les semaines précédentes dans d'autres grandes villes françaises et qui, à tour de rôle, arrivaient à Paris pour la grande marche finale du 17 octobre. En plus de la régularisation, les autres revendications étaient justement la fermeture des centres de rétention et le droit au logement pour toutes et tous. Tout ça, on arrive finalement à toi, Mathieu.
Pas de problème.
Tout ça, ça intervient dans un contexte politique français assez particulier par les temps qui courent. Donc, tu pourrais nous donner sûrement quelques exemples.
Plusieurs exemples. Ben, c'est peut-être pour ça que ces événements-là n'ont pas été couverts beaucoup par les médias, parce qu'on parle juste des folies et des simagrées de Macron et de son clan.
Macron est en feu, là.
Il est en feu, mais dans le mauvais sens du terme. Évidemment, il dérape et puis il est hyperactif. Donc, et il dérape de plus en plus à droite en fonction des élections dans 2 ans auxquelles il va se coltailler avec le Front national devenu le ralliement national. Revenir un petit peu sur toute l'histoire qu'il y a eu au niveau de l'islam, au niveau des caricatures, mais pas pour parler de ça parce que tout le monde a entendu parler des détails, mais les dérives et le mépris ne datent pas de la dernière semaine ou des dernières semaines dans le cas de Macron. Faut noter qu'il y a un projet de loi concernant le séparatisme islamiste, entre guillemets, c'est le surnom qu'on lui donne, qui va être présenté le 9 décembre prochain au Conseil des ministres et ensuite à l'Assemblée nationale. L'objectif principal est de ramener la République partout sur le territoire pour intégrer tout le monde. C'est assez clair, ça, c'est dans le projet de loi. Et là, pour qu'on comprenne tout ce qui se passe, on sait que Macron, il vire à droite, depuis longtemps, et qu'il va aller sur le territoire de l'extrême droite, mais il a fait un discours le 2 octobre dernier à l'Élysée, un discours officiel, qui présentait un peu ce qui s'en venait dans ce projet de loi-là, et c'était avant l'histoire des caricatures, des attentats et tutti quanti. Je vais vous donner quelques extraits de ce discours-là. Marie-Ève, écoute bien, je pense que tu vas vraiment sauter de ta chaise. Okay. Donc, j'ouvre les guillemets pour 2-3 minutes. « Parce que l'école doit d'abord inculquer les valeurs de la République et non celles d'une religion. » Former des citoyens, non des fidèles, l'instruction au sein de l'école sera obligatoire dès l'âge de 3 ans, pour tout le monde.
Hein? On vient à peine d'apprendre à parler.
Exactement. Nous voyons les enfants de la République, enfants ou petits-enfants de citoyens issus de l'immigration, revisiter leur identité par un discours postcolonial, voire colonial. Notre horizon est simple, c'est assurer une présence républicaine au bas de chaque tour, au bas de chaque immeuble. Nous allons nous-mêmes former nos imams en France. Le système actuel ne permet pas à la structuration de cette religion dans notre pays d'avancer comme il le faut. Bâtir enfin un islam en France qui puisse être un islam des Lumières.
OK, mais c'est ça. Mais dans le fond, c'est pas qu'il veut pas, plus de fidèles. C'est qu'il veut des fidèles, mais à la République.
Ben, la religion de laïcité ou de la République, on peut appeler ça comme ça, évidemment. Toute association sollicitant une subvention auprès de l'État devra signer un contrat de respect des valeurs de la République et des exigences minimales de la vie en société. Ça, c'est pour l'ensemble des associations, pas juste musulmanes. Et le crunchy s'en vient. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. Ça vient de là.
Ouais, peut-être, en tout cas, j'imagine que tu vas l'expliquer un peu. Là. C'est un drôle de terme.
J'y viens. Il vise à contrevenir le séparatisme islamiste. Il vise à contrevenir aux lois de la République et créer un ordre parallèle. Le but final de cette idéologie est de prendre le contrôle complet de la société et de rejeter la liberté d'expression, la liberté de conscience, le droit au blasphème. Ça, c'est dans son discours, là, j'invente rien. Et la phrase qui a choqué un peu à l'international, l'islam vit une crise profonde partout dans le monde. C'est ce qui a déclenché un peu les hostilités avec Erdogan et avec d'autres. Donc ensuite, le combat de coq avec Erdogan, la fameuse déclaration « Je ne renoncerai jamais aux caricatures », les manifs dans les pays, le boycott des produits français, dans les pays arabo-musulmans et le boycott des produits français, et ensuite, après les attentats, la répression contre les associations musulmanes en France et la nouvelle loi dont je vous parle qui s'en vient. Donc ça, c'est une partie du décor quand même. Sinon, peut-être vous dire aussi que depuis 2 semaines, il est déchaîné, Macron.
Il est très théâtral, hein, toujours.
Oui, évidemment. Et là, il appelle directement des journalistes et des rédacteurs en chef à l'étranger, dans les pays anglo-saxons particulièrement. Il fait pression, il insiste. Le résultat, c'est qu'il y a des articles, des tweets qui ont été retirés ou des titres modifiés, tels ceux du Financial Times, de l'Institute Press, des premières à ce que l'on dit dans le milieu médiatique. Et il y a un article du New York Times cette semaine, du 15 novembre, qui titrait « Macron contre les médias américains. Après les attentats, le président français accuse les médias anglo-saxons de légitimer les violences. » 2 extraits de cette entrevue, parce qu'il a appelé lui-même le gars du New York Times.
C'est complètement délirant. Je veux dire, c'est Trump sort de ce corps. On dirait qu'il y a commis un transfert de personnalité.
Tu me voles mon scoop, là, Marie-Ève. Donc, 2 extraits de cet article-là, dans la conversation avec le journaliste du New York Times. Et quand je vois dans ce contexte de nombreux journaux, qui, je pense, viennent de pays qui partagent nos valeurs, qui écrivent dans un pays qui est l'enfant naturel des Lumières et de la Révolution française, et qui légitime ces violences, qui disent que le cœur du problème, c'est que la France est raciste et islamophobe, je dis, les fondamentaux sont perdus. Première citation. La deuxième, je ne vais pas me prendre pour De Gaulle ou Chirac, là, mais notre modèle est universaliste et pas multiculturaliste, explique-t-il en soulignant l'insistance de longue date en France pour ne pas catégoriser les citoyens par leur identité. Dans la société française, je me fiche de savoir si quelqu'un est noir, jaune, blanc. S'il est catholique ou musulman, il est d'abord citoyen. Donc, c'est...
C'est beau.
Ah, c'est beau. Hein? Il se fait aller la gueule ces temps-ci. C'est quelque chose.
Je suis vraiment émue. Vous me voyez, les auditeurs, auditrices me voient pas, mais vous me voyez, j'ai une petite larme qui coule sur mes joues.
Ça coule sur la console, attention. Là. Oh.
L'islam des Lumières et tout, c'est merveilleux. Donc, j'allais dire, ça vous fait penser à un autre président, mais tu as déjà répondu à la question. Et pour terminer, deux autres informations. Depuis le 17 novembre, cette semaine, les députés étudient le projet de loi sur la sécurité globale. Rien de moins, à l'Assemblée nationale française. Un des articles qui fait polémique, c'est qu'il y aurait un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour les gens qui diffuseraient, par quelque moyen que ce soit, quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police, d'un militaire de la gendarmerie, lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Le texte, de l'article, le texte est suffisamment large pour frapper ceux qui diffusent des images de policiers accusés de violence sur les réseaux sociaux ou ailleurs. L'autre article qui fait polémique, c'est l'usage des drones. Ça crée un nouveau régime juridique de captation d'images par des moyens aéroportés, c'est le nom officiel, parce qu'il n'y a pas actuellement de cadre clair. Donc, les services de l'État pourront filmer par voie aérienne, mais seulement pour des finalités précises dans le respect des libertés publiques. Mais il y a des exceptions, évidemment, ou des finalités précises. La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs, la régulation des flux de transport, la surveillance des zones frontalières, le secours aux personnes, blablabla. Et dans le projet de loi qui est en étude actuellement, il va y avoir un petit amendement qui va être ajouté, ça a été un scoop de certains médias français, que la reconnaissance faciale devrait faire son apparition officiellement aux Jeux olympiques de 2024 à Paris.
Mais pas pour les policiers.
Non, c'est ça la contradiction. Vous me devancez, vous êtes vraiment, vous écoutez bien.
Donc, nous autres aussi, on est en feu.
C'est ça, c'est à deux sens. Ça, les policiers, on peut pas les filmer, mais on peut filmer toutes les autres, évidemment. Et pour terminer, ben toujours sur le terrain de l'extrême droite, dans les Pyrénées, le 5 novembre, Macron annonçait un doublement des forces de sécurité aux frontières françaises. Les raisons officielles, menaces terroristes, immigration illégale. Donc, les effectifs de la PAF, la police aux frontières, vont passer de 2400 à 4800 agents. Et il a déclaré, Marie-Ève, écoute ça, être favorable Macron toujours, être favorable à une refondation en profondeur des règles régissant l'espace Schengen de libre circulation en Europe et un plus grand contrôle des frontières, repenser l'organisation de Schengen et intensifier notre protection commune aux frontières avec une véritable police de sécurité extérieure. Donc, ça, c'est un échantillon de ce qui se passe en France. C'est la folie furieuse, là. Fait que les manifs de sans statut, je pense qu'ils passent vraiment en deuxième, malheureusement, un peu partout en France, là.
Ben oui, avec des lois... comment ça s'appelle? La loi sécurité globale, même les journalistes accrédités vont avoir de la difficulté à filmer les manifestations tellement ça pose de contraintes, là.
Ça répond à l'État... L'État incontrôlable depuis les gilets jaunes et tout, et en plus les attentats. Donc, écoute, c'est le discours sécuritaire à l'avant-plan.
Non, mais c'est aussi que l'État est partout, là. C'est vraiment ça, là.
Oui, mais il veut que tu sois nulle part, non plus. Ça va loin, quand même.
Oui. Ben, on en parlera. Oui.
On va aller en musique, mais on reste en France.
Ben oui.
C'est l'artiste Jéré, je sais pas si je prononce bien, et la chanson, la pièce s'appelle « Des grosses papouilles ».
Les brûler, t'aimes pas les clodos, mais t'aimes pas les riches non plus, ni tous ces Chinois qui rachètent les PMU. Et qu'est-ce qu'ils viennent te faire chier, ces écolos à la con? C'est quand même toi qui décides si tu bouffes de la viande ou non. Heureusement, y'a internet où tu peux tout écrire, parce que partout ailleurs, on peut plus rien dire. Et ça tenait qu'à toi, tu les foutrais à l'eau. Tous les migrants avec leurs sales marmots. De toute façon, c'est tous les mêmes, c'est rien que des terroristes. Ah, c'est comme les bonnes femmes, toutes vieilles féministes. Ton temps, c'était différent, elles étaient moins zinzin. Elles te foutaient pas un procès pour une main au popotin. Et puis, c'est toutes des lesbiennes et des transsexuelles. C'est quoi cette nouvelle mode de poils aux aisselles?
L'artiste française d'origine lituanienne, mi-musicienne, mi-humoriste, sarcastique, Jiéré, je vais l'appeler, là, J-I-E-D, R majuscule E accent aigu. La pièce des grosses papouilles qui se moquent de la fragilité masculine, entre autres, des gens qui se sentent menacés, qui ont peur des gays, des féministes, des immigrants. Elle leur promet du beau gros amour pour les consoler, des belles grosses papouilles. C'est quoi des papouilles, Marie-Ève?
C'est
pas comme les chats qui
non, non, ça, c'est des potoums.
Des potoums. Mais on est aux apatrides anonymes, je vous le rappelle. Avant de céder le micro à Marie-Ève, quelques petites brèves internationales. On vous parlait récemment des îles Canaries, les îles espagnoles dans l'Atlantique en face du Maroc et du Sahara occidental, qui est un des avant-postes de l'Union européenne. On vous disait que cet itinéraire qui est particulièrement dangereux à naviguer, on part d'aussi loin que le Sénégal ou la Mauritanie, ben au gré des mesures et des restrictions qui affectent les autres routes traditionnelles vers l'Europe, par les îles grecques ou italiennes par exemple, ben ce circuit-là vers les îles Canaries regagne en popularité depuis quelques semaines. Et déjà, les naufrages se succèdent, on constate et déplore de très nombreux disparus. Le 23 octobre, 140 personnes sur 200 dans une pirogue, dans le naufrage d'une pirogue, ont disparu. C'est en fait le naufrage le plus meurtrier de l'année, plus que tout ce qu'on a pu constater à date dans la Méditerranée ou dans la Manche. Évidemment, la réaction de l'Europe est de mobiliser son agence Frontex dans les eaux internationales devant le Sénégal et la Mauritanie pour procéder à des interceptions et à des refoulements. Sinon, on passe de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, complètement à l'autre bout. Bon, tout le monde a entendu parler du conflit dans la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie. En gros, je vais essayer de résumer ça, c'est le gouvernement fédéral qui a envoyé l'armée pour combattre le Front de libération des peuples du Tigré, qui est à la fois un parti politique de gauche et un groupe rebelle armé qui contrôle beaucoup d'infrastructures, d'institutions politiques et administratives dans la région. Le gouvernement central n'est pas allé de main morte des raids aériens, des combats au sol impliquant de l'artillerie lourde. Bref, le conflit a rapidement dégénéré, provoquant des afflux massifs de civils au Tigré vers le Soudan, juste au nord. Le Soudan qui a accepté de recevoir tout le monde, mais qui a été pris de court, qui n'a pas des infrastructures d'accueil suffisantes actuellement. Et les ONG spécialisées dans l'accueil des réfugiés ont aussi été prises de court. Et il semble que l'on soit mis un peu en mode panique pour essayer d'envoyer des ressources le plus rapidement possible sur place. L'un des autres problèmes d'un point de vue migratoire, c'est que l'Éthiopie, en général, dans la région, la sous-région, et notamment la région du Tigré, sont des régions d'accueil pour personnes migrantes, pour réfugiés, entre autres beaucoup d'Érythréens. Il y a des camps de réfugiés qui vont probablement être complètement évacués si le conflit persiste. Donc, c'est encore plus déstabilisant. Ça rajoute au casse-tête logistique de cette situation humanitaire qui, disons-le, risque d'empirer dans les semaines et les mois à venir. Donc, des dossiers à suivre. On est toujours aux Apatrides sur Choc. On va maintenant donner la parole à Marie-Ève qui va nous amener au Royaume-Uni.
Oui, en fait, si vous vous souvenez bien, il y a deux semaines, je vous ai parlé des moyens assez ridicules, merci, que le Royaume-Uni envisageait ou avait déjà mis en place pour freiner les traversées de la Manche depuis la France.
Des vagues artificielles, puis des niaiseries.
Notamment des filets, attacher des petits bateaux ensemble. Donc, je vais poursuivre aujourd'hui et conclure, en tout cas pour l'instant, là, ma série sur ce pays. Et vous allez voir que les autorités britanniques sont vraiment prêtes à tout pour se débarrasser des personnes migrantes qui arrivent sur son sol. Dans un rapport rédigé par Corporate Watch en collaboration avec d'autres associations de défense des droits des personnes migrantes, on apprend en fait qu'une bonne partie de la stratégie migratoire du Royaume-Uni repose de plus en plus sur les expulsions massives par vol charter, rien de moins, vers la France, l'Allemagne et l'Espagne. Je vais vous donner un peu de contexte d'abord. Jusqu'en 2018, pardon, les personnes sans papier qui tentaient de traverser entre Calais et Dover au Royaume-Uni le faisaient principalement en montant dans des camions ou des trains qui passent par le tunnel sous la Manche. Sauf que les systèmes de sécurité autour des stationnements de camions, du tunnel puis de l'autoroute ont été vraiment massivement renforcés là après les expulsions de la jungle de Calais en 2016. Donc ça a obligé les gens à chercher d'autres itinéraires, toujours plus dangereux, évidemment, comme ailleurs, y compris donc en traversant à bord de petites embarcations. Je vous le disais là, il y a deux semaines, c'est plus de 7400 personnes qui ont traversé la Manche par embarcation depuis le début de l'année. C'est quatre fois plus qu'en 2019. Donc, pour l'instant, les gouvernements respectent leurs obligations légales minimales en matière de protection de la vie en mer. Il n'y a pas eu de preuve de pushback ou de pullback illégaux, qu'on appelle, c'est-à-dire là, quand de force, soit des bateaux britanniques poussent ou des bateaux français tirent des bateaux vers l'un ou l'autre des côtés de la frontière. Parce que comme je vous expliquais là la semaine, pas la semaine dernière, mais il y a deux semaines, lorsque il y a des embarcations qui sont interceptées dans les eaux françaises, ben là les voyageurs sont ramenés en sol français. Puis s'ils parviennent à rentrer dans les eaux britanniques, ben là c'est la police aux frontières britanniques qui les récupère, puis qui les débarque à Douvres. Et là les personnes peuvent demander l'asile au Royaume-Uni. Faut préciser quand même qu'il n'y a pas de différence juridique entre demander l'asile après être arrivé par bateau, par avion ou peu importe la façon, là, dans le fond. Sauf que les personnes arrivées par embarcation sont traitées d'une manière spéciale, si on peut dire, qui semble être conçue pour refuser le droit d'asile au Royaume-Uni. Parce qu'une fois que les personnes sont à terre et en sécurité, c'est là que le deuxième volet de la stratégie entre en jeu, c'est-à-dire de systématiquement faire obstacle à leur demande d'asile et, si possible, les expulser vers la France ou d'autres pays européens. En pratique, c'est sûr que c'est impossible pour le Home Office d'expulser toutes les personnes, évidemment, qui réussissent à traverser. Donc, il s'agit plutôt d'une démonstration de fermeté avec le spectacle médiatique qui vient avec, qui a pour but là non seulement de tenter de dissuader d'autres arrivantes éventuelles, mais aussi pour se rallier l'opinion publique. Et c'est là qu'intervient la nouvelle vague de vol charter. Au moment de la publication du rapport le 31 août, deux vols avaient eu lieu, les 12 et 26 août, et un autre était prévu pour le 3 septembre, mais là, j'ai comme pas trouvé d'informations depuis ça. Les deux premiers vols ont fait escale en Allemagne, à Düsseldorf, et en France, Toulouse pour celui du 12, puis Clermont-Ferrand pour le 26. Il y avait aussi un autre vol qui était prévu pour l'Espagne le 27 août, sauf que, heureusement, pour celui-là, il a été annulé après que des avocats aient réussi à faire descendre tout le monde de l'avion. Concernant le vol du 12 août, des recours légaux ont réussi à faire sortir 19 personnes de l'avion qui avaient reçu des instructions d'expulsion, sauf que le Home Office les a remplacés par 14 autres personnes qui étaient sur la liste d'attente. On peut se douter que la liste d'attente, en tout cas des personnes à expulser, il en manque pas, la liste doit être assez longue. Il s'arrange pour en trouver. Les avocats suspectent que ces 14 personnes-là n'ont pas eu suffisamment accès à leur droit à être représentés par un avocat avant le vol, ce qui a permis qu'elles soient expulsées. Puis parmi les 19 personnes dont les avocats ont réussi à empêcher l'expulsion prévue, il y en a 12 qui ont finalement été déportées par vol charter sur celui du 26 août. Donc, 6 personnes se sont ramassées à Düsseldorf en Allemagne et 6 autres à Clermont-Ferrand en France. Puis, au retour de la petite pause, je vais vous parler plus de ce qui est arrivé aux personnes qui ont été expulsées et des enjeux que soulève cette stratégie-là.
On revient dans une minute. Effectivement, ça a pas l'air, d'un point de vue du droit, tout à fait légitime. Ça ressemble à des expulsions de masse qui est interdit par rapport au droit international. Ouais. On revient dans une minute. Bon, c'était pas très britannique comme extrait musical, mais on reste quand même au royaume de Sa Majesté. Donc, voilà pour la suite du dossier UK, Marie-Ève.
Oui, là maintenant, je vais vous parler en fait de qui sont ces personnes qui ont été expulsées. L'ensemble de ces personnes expulsées par avion, c'était des personnes réfugiées qui ont déposé une demande d'asile au Royaume-Uni dès leur arrivée à Dover. Ces personnes viennent de différents pays, dont l'Irak, le Yémen, le Soudan, la Syrie, l'Afghanistan et le Koweït. Toutes les personnes qui ont été expulsées craignaient les persécutions dans leur pays d'origine, où les abus des droits de la personne sont nombreux, évidemment, et ont été là largement documentés. En plus, plusieurs d'entre elles ont survécu, sont des survivants de la torture, ce qui a été documenté d'ailleurs par le Home Office lui-même lors des entretiens qu'il a menés avec ces personnes. Parmi ces personnes, donc, il y a eu un mineur âgé de moins de 18 ans qui a été enregistré par le Home Office comme ayant 25 ans, même que le Home Office est en possession de son passeport prouvant son âge réel. Rappelons que les mineurs non accompagnés ne devraient pas être traités avec la procédure Dublin 3 et encore moins être placés en détention ou être expulsés. Presque toutes les personnes avaient des amis ou de la famille au Royaume-Uni. Et enfin, aucune de leurs demandes d'asile n'a été évaluée. Toutes ont été refusées dans le cadre de la procédure. Dublin 3.
Excusez, je l'avais pas sur la boule. Mais juste préciser, tu disais les pays d'origine d'où proviennent les demandeurs, les réfugiés, c'est effectivement des grosses communautés en Angleterre. Là,
aussi, ouais.
Donc
ouais,
c'est
ouais.
La raison pour laquelle...
Et de longue date, souvent, c'est de première, deuxième, troisième génération.
Là. C'est ça, donc tu disais beaucoup ont de la famille, ben ça ouais. Se comprend si on connaît un peu le profil socio-économique de l'Angleterre.
Là, voilà. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qui arrive avec ces personnes? Qu'est-ce qui est arrivé avec ces personnes-là une fois rendues à destination? Corporate Watch n'a évidemment pas pu toutes les retracer. Mais ce qu'on sait pour au moins une personne qui a été expulsée vers l'Allemagne, c'est qu'à son arrivée à Düsseldorf, la police allemande lui a donné un billet de train en lui disant de se rendre au bureau de la demande d'asile à Berlin. Une fois rendu là-bas, on lui a dit de retourner dans son pays. Ce à quoi il a répondu qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays et qu'il n'avait pas non plus d'argent pour rester à Berlin, ni d'argent pour voyager dans un autre pays. Alors, le bureau de la demande d'asile a simplement répondu qu'il pouvait dormir dans les rues de Berlin.
Réponse officielle.
Oui.
Mais voyons.
Et pour les personnes expulsées vers la France, elles ont été transportées à Clermont-Ferrand où elles ont été testées pour la COVID-19 dès leur arrivée et elles ont été retenues par la PAF dont Mathieu parlait tantôt, la police aux frontières, qui porte magnifiquement son nom. Pendant que les autorités françaises, elles...
Force de frappe.
Oui, c'est ça.
Désolé.
de la FAF, ouais, c'est ça, pendant que les autorités françaises décidaient de leur sort. Avant de les libérer, on leur a donné des ordres d'expulsion et aussi des interdictions de retour sur le territoire français. Ces documents-là ne leur donnent que 48 heures pour faire appel. Le gouvernement britannique, lui, a dit que c'est les personnes déportées par avion en France avaient la possibilité de demander l'asile en France, ce qui est clairement faux. Pour aller plus loin encore dans les contradictions bureaucratiques, avec les ordres d'expulsion, on leur a aussi donné l'ordre de devoir se présenter à la station de police de Clermont-Ferrand tous les jours à 10 heures du matin, et ce, pendant les 45 prochains jours, potentiellement pour les arrêter et les expulser ou les détenir à ces occasions-là. Et il leur a aussi été dit que s'ils se présentaient pas à la police, ben on les considérerait comme en fuite.
Pas le droit de filmer la police, hein? Non, faut le rappeler.
Oui, c'est ça. La police leur a aussi réservé une place dans un hôtel à plusieurs kilomètres de l'aéroport pour 4 nuits, mais sans aucune autre information ni aucune aide pour se procurer de quoi manger. On leur a pas non plus fourni aucun moyen de transport comme tel ou d'aide pour se rendre à cet hôtel-là. Et la police a refusé de les aider en disant que ben leur mission s'arrêtait à la délivrance de leurs documents d'expulsion. C'est complètement, c'est n'importe quoi. Donc, pour résumer, là, les principaux et nombreux problèmes que soulève la stratégie britannique d'expulsion massive. Un, la nature profondément politique du processus d'expulsion signifie qu'on leur refuse d'emblée l'accès à une procédure de demande d'asile. Les personnes réfugiées incluent des personnes victimes de torture, de trafic humain et ainsi que des mineurs. Des individus sont détenus, précipités d'un entretien à l'autre et dublinés sans la possibilité d'avoir accès à une assistance juridique et aux informations nécessaires. Afin d'éviter d'avoir à considérer de demandes d'asile, ben la Grande-Bretagne applique le règlement Dublin III, souvent d'ailleurs en employant des preuves assez circonstancielles qui seraient pas retenues normalement, mais que la France accepte. De nombreuses personnes expulsées ont des attaches, comme je le disais, familiales au Royaume-Uni, mais alors que le critère de rapprochement familial, qui est vraiment le principal critère de Dublin III, est ignoré. En acceptant les demandes de Dublin, ben la France prend la responsabilité légale, normalement, des demandes d'asile, mais en réalité, elle prive les personnes de la possibilité de demander l'asile en leur assignant des papiers d'expulsion. Les personnes ont juste 48 heures pour faire appel de la procédure d'expulsion, ce qui est complètement inadéquat pour assurer une procédure correcte. À plus forte raison, pour des personnes traumatisées qui sont passées par la détention, l'expulsion, qui sont larguées au milieu de nulle part dans un pays où elles ont aucun contact et où, dont elles parlent pas la langue.
Ben, même moi, j'ai de la difficulté à suivre. Tu l'expliques bien, c'est pas ça, mais c'est complexe.
Donc, ben, je pense que c'est fait exprès, là.
Ouais, mais c'est impossible. Tu disais 48 heures pour faire appel. Tu sais, comment t'expliquer? Les ONG qui essaient d'aider ces personnes-là, même doivent être elles-mêmes mélangées. En tout cas,
ben, même les autorités, je veux dire, moi, je
ouais, les fonctionnaires
c'est
aussi.
C'est clairement ce que ça fait, en fait, c'est que ça vient grossir les camps de fortune de personnes migrantes dans les nombreux pays. Puis ce que ça fait, c'est que ces pays-là, ces personnes-là tombent dans une espèce de no man's land, sans papier, sans rien pendant des années, puis vivotent, tu sais. Puis ça, en plus, ben c'est ça, c'est que ça invalide complètement les arguments du Home Office britannique, qui soutient que les personnes que le Royaume-Uni expulse peuvent avoir accès à une procédure de demande d'asile équitable, tu sais. Donc, c'est vraiment...
Mais en théorie, oui, mais en pratique, ça marche pas, là.
Ben, même en théorie, oui, en théorie, ça pourrait, mais en pratique, non. C'est juste une façon, vraiment, de pelleter le problème dans le cours du voisin. C'est exactement. Vraiment, vraiment ça, là.
Ben merci Marie-Ève. On va revenir au Québec pour pas mal tout le restant de l'émission. C'était bien intéressant. Je sais pas, il y aura peut-être une troisième suite au dossier UK. On en parle pas souvent. Puis c'est un pays, moi je serais curieux de voir là-bas l'accueil aussi, les conditions.
Ouais.
Parce qu'il y en a dont les demandes doivent être traitées. Est-ce qu'ils sont dans des camps? Est-ce qu'ils sont... On le sait pas trop dans le fond. C'est un peu opaque, un peu mystérieux comme pays.
Il y a différents types de camps de rétention. Il y a beaucoup... Ils utilisent beaucoup les camps de ce qu'ils appellent pour court, les centres de rétention pour court séjour, là.
Qui doivent être pas mal toutes près de la Manche, là, j'imagine.
Sont toutes près de la Manche, mais je vous en parlais aussi il y a deux semaines. Les conditions de détention, c'est les conditions de surpopulation et de vie là-bas sont exécrables. Là, fait que.
Merci Marie-Ève. Tantôt, on va rejoindre Mathieu qui va nous parler des seuils d'immigration Ottawa-Québec. Juste avant, je vais vous faire un petit peu grincer des dents. Essayez de pas rire, là. Le gouvernement du Québec a tenu à se dissocier d'une capsule éducative qui est dans le site de Télé-Québec. La capsule est co-animée par Maïté Labrique-Saganache. Ça explique aux adolescents c'est quoi le racisme systémique. Bon, le gouvernement caquiste nie le phénomène en bloc. Le premier ministre impose une ligne de parti négationniste à tous ses ministres et députés. Même à Yann Lafrenière, ministre responsable des Autochtones, on comprend toujours pas qu'est-ce qu'il fait dans ce poste-là. Bref, dans la capsule, on mentionne que souvent, il y a une confusion entre les termes systémique et systématique. Et c'est justement ce que Legault et sa gang font, entretenir cette confusion-là pour refuser de reconnaître l'existence du racisme systémique au Québec. Question d'en rajouter une couche, il y a le nouveau chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, le jeune vieux ou le vieux jeune, je ne sais pas trop comment l'appeler, qui, dans la droite lignée des Marois, Drainville, Lisée ou Dumont, demande que cette capsule soit retirée du site de Télé-Québec. On ne sait pas trop de quoi il se mêle ou s'il comprend bien son rôle actuel de chef de la dernière opposition. On ne sait pas s'il comprend la notion d'indépendance des médias au Québec. Bref, il faut choisir ses combats. Pendant qu'il y en a qui se battent pour pouvoir prononcer le mot en haine au nom de la liberté d'expression, ils sont prêts à censurer une capsule éducative que je vous invite d'ailleurs à aller visionner. Elle est toujours dans le site de Télé-Québec qui a ignoré cet appel à la censure. Le mot-clé « racisme systémique Télé-Québec », vous allez la trouver tout de suite. Le fameux mot qui commence par N et qui a enflammé le débat public dernièrement, on va écouter une petite pièce sortie pour l'occasion. C'est par Impos, ancien de Mosaïon et Webster qu'on connaît bien. À ma connaissance, ça se trouve pas sur un album, c'est vraiment sorti juste pour le contexte actuel. Ça se trouve sur différentes plateformes en ligne. Au retour, on retrouve Mathieu au micro pour plus d'actualités locales. On y va avec Impos et Webster.
Nègre, utilisé pour dénigrer notre nation. La rue l'a repris, on a changé sa connotation. Nègre, tu marches avec des bannières pour le bannir. On a repris son pouvoir, t'as pas la peau noire, tu peux pas le dire. Nègre, abstinence respectée par mes white friends. Séquelle de l'esclavage, la douleur d'une famille haïtienne. Nègre, des terres volées, des femmes violées, des mères vendues, des pères pendus, enfants fouettés. La liberté, ils m'ont souhaité. Nègre, à quel prix je prie, je suis pris prisonnier du racisme. Mais je dissimule le ridicule d'une vie si nulle, d'église qui brûle, de Bible en feu. Les cris du cœur sont silencieux, c'est si honteux, entre si en deux. Entre le cauchemar et l'âme qui rêve, je suis nègre. Nouveaux esclaves se plaignent à la con. Mais comprends, je suis un king, un pharaon. C'est pas un sprint, c'est pas un marathon. Continuons la discussion, l'élévation des nègres marrons nègres. Sur leurs épaules, nos guerriers en honore. Tu fais l'étude de ma négritude en Amérique du perdu le nord. Mes Québécois nègres blancs d'Amérique, caca, presque le même tracas. Tu vois le cas, on est tous nègres. Ma nègre, ma nègre, ma nègre, ma nègre. C'est comme ça que j'appelle mon frère. Ma nègre, ma nègre, ma nègre, ma nègre. On donne le pouvoir aux mots et non le contraire. Nègre, 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 please. Tu n'es que nègre à leurs yeux, même si t'es un chef d'entreprise. Enterré sous des factures sales et en renaît aigre. Si à leur bouche, il y a le mot nègre. Nègre à vendre, nègre à donner, nègre à prendre. Nègre abandonné, nègre à pendre. Le sang de l'Afrique, la coulée telle une offrande. Depuis des millénaires, le bois d'ébène est dur à fendre. Nos royautés s'effondrent, notre bâtie de ses cendres. Le monument demeure malgré la fatigue des saisons. Pas de pause, un long poème sans césure. La lignée continue quand Camoussa a aimé Césaire. Ghost. Une âme ouverte, le Vésuve comme un colmate et les fissures. Quand l'eau salée coule des blessures, le sable du Sahara nous a déshydraté les yeux. En attendant l'orage, le regard braqué vers les cieux. Un mot, cinq lettres, près de 800 ans de traite. Mais c'est au-delà du fouet qu'il faut situer le portrait. Force, peut-être hanté par le regret. Rester assis puis maugré ou avancer vers le progrès. Gods. Ma nègre, ma nègre, ma nègre, ma nègre. C'est comme ça que j'appelle mon frère. Ma nègre, ma nègre, ma nègre, ma nègre. On donne le pouvoir aux mots et non le contraire. Nègre, 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 please. Tu n'es
qu'un nègre à leurs yeux, même si t'es un chef d'entreprise. Enterré sous des factures sales et en renaît aigre. Si à leur bouche, y a le mot nègre.
C'est l'émission des Apatrides, toujours sur Choc. Mathieu, on t'accueille encore au micro dans le studio.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Donc, les seuils d'immigration Québec-Canada, c'est sorti il y a quelques semaines, mais on n'avait pas eu le temps d'en parler à l'émission. C'est passé un peu inaperçu dans tout le flux de nouvelles qu'il y a actuellement sur différents enjeux. Deux visions très différentes. Hein. Le Canada souhaite accueillir 1,2 million d'immigrants et migrantes d'ici 2023. On parle de 401 000 pour l'année 2021, ce qui constituerait un record historique. L'année passée, c'était 2020, ça devait être 341 000. Ça ne sera pas, évidemment, avec la situation. Donc, 401 000 en 2021, 411 en 2022, 421 000 en 2023. Donc, c'est quand même une augmentation de 10 000 par année. Comme je vous disais, cette année, ça devait être 341 000, ça va être moins. Aussi, une petite curiosité, dans le plan, on appelle ça un plan triennal en matière d'immigration, on parle d'admettre 500 réfugiés qualifiés dans le cadre d'un vague et obscur projet sur la voie d'accès à la mobilité économique. Là, j'étais comme 500 sur 401 000. En tout cas, ça vaut pas la peine d'en parler, je trouve, mais c'est particulier. Mais je connaissais pas ce programme.
Programme fédéral.
Oh, je suis toujours dans le fédéral. Oh, okay. Je suis toujours dans le fédéral. Voilà. C'est une curiosité un peu particulière. Donc, depuis le début de l'année 2020, l'immigration a diminué de 40 % par rapport à l'année dernière à cause de la fermeture des frontières, entre autres. Ça commence à repartir un peu au mois d'octobre. La réouverture du programme de parrainage des parents et grands-parents, qui est populaire, s'est accompagnée d'une promesse d'abaisser le seuil de revenus requis pour les parrains potentiels à cause de l'appauvrissement de beaucoup de gens, évidemment. Mais les libéraux n'ont pas précisé les objectifs dans les différentes catégories, hein, réfugiés, parrainés. Donc, on sait qu'il y a 401 000 personnes attendues l'année prochaine, mais on n'a aucune idée dans quelle catégorie. Et évidemment, les oppositions, les groupes ont dit aussi que ça serait peut-être le fun d'accorder le statut de résident permanent aux gens qui sont déjà présents sur le territoire, entre autres les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants étrangers qui ont obtenu un emploi, tant qu'à aller chercher plein de monde, plus que d'habitude. Il y en a déjà qui sont à portée de main et ils n'ont pas à se baderer des fermetures des frontières, évidemment, dans ce cas-là. Donc ça, c'est le fédéral. Au niveau provincial, le gouvernement prévoit accueillir entre 25 et 30 000 personnes cette année 2020. C'est une baisse par rapport à ce qui était prévu. On prévoyait 43 à 44 000. 3 000 de plus que l'année passée. On se rappelle qu'ils ont beaucoup diminué depuis qu'ils sont là. Ils remontent tranquillement. Donc, c'est 17 000 personnes de moins prévues en 2020, ce qui est quand même beaucoup sur un petit chiffre comme 40-quelques mille, évidemment.
Ben, ça nous donne quasiment 40 %, hein, je pense.
Ouais, ben un peu plus quand même, mais ouais, autour de ça. Et là, ils veulent ajouter 7 000 l'année prochaine aux 45-46 000 prévus, mais on en perd 17 000 cette année, donc il y a vraiment un déficit. Et ils parlent d'un rattrapage plus important pour 2022 si jamais les chiffres sont pas trop élevés, enfin, le discours de la CAQ. Et autre élément important, dès l'an prochain, on compte accueillir 62 % d'immigrants économiques contre 55 % cette année. Donc, on diminue toujours le parrainage et les réfugiés. Et d'ici 2022, ce qui est prévu, c'est autour de 52 000. C'était le chiffre il y a 3 ans sous les libéraux quand la CAQ a pris le pouvoir. Donc, pour le rattrapage, il faut revenir à la même chose. Et finalement, ben, en résumé, j'aime bien citer la nouvelle ministre d'immigration, Nadine Giraud, qui dit: on a quand même beaucoup d'emplois qui sont disponibles et c'est pour ça qu'on va aller chercher des immigrants pour faire des matchs avec l'économie d'ici. Hein? C'est le fun, hein?
On va arrimer.
On va arrimer. Sinon, ben vous dire une histoire, je vais vous en parler rapidement parce que ça a fait un peu les médias. La fameuse question de l'accusé de réception de Immigration Canada, ça c'est quelque chose quand même. Oui, ok. Donc, t'en parles tantôt. Ah, c'est beau, écoute. Ben ouais, je vais sauter d'abord, écoute.
Donc, il faudrait mieux se coordonner. Là.
Ben là, écoute, il y a tellement de sujets. Ben, je vais finir d'abord avec une autre manifestation, Simon, que tu n'as pas dans ton agenda.
Ah, peut-être je l'ai.
Ben, c'est dans 2 jours, le 21 novembre, devant le bureau de Legault, sur Megan
College.
Non,
je l'avais pas, tu peux y aller.
C'est un rassemblement solidarité avec les immigrants et migrantes des services essentiels. C'est pour ça que j'en parle, parce que je parlais de tout ça, évidemment. Oui. Organisé par la Coalition pour la régularisation des statuts. qui regroupe une quinzaine d'organismes, dont le Comité d'action personnes sans statut, la Maison d'Haïti, la TCRI, dont on parlait il y a quelques semaines. Donc, évidemment, ben, c'est toujours le même sujet, c'est la mise en œuvre immédiate du fameux programme spécial pour les travailleurs essentiels qui est toujours pas en œuvre entre Québec et Ottawa, et évidemment de l'élargir à tous les gens qui ont été essentiels, supposément, selon la définition en plus du gouvernement québécois, qui sont pas inclus dans le programme. Donc, on lâche pas. Autre manifestation samedi midi, ça vous tente, organisée par une coalition quand même sympathique. Donc, voilà, Simon, je te repasse le micro.
Ben oui, on sait tous les efforts que fait le gouvernement Legault pour justement réduire au minimum les catégories qui pouvaient entrer dans ce qu'on qualifie comme travailleurs essentiels ou anges gardiens.
Voilà.
On va poursuivre les actualités locales dans trois minutes avec Marie-Ève. J'en profite tout d'abord pour vous faire un petit calendrier d'activités culturelles et militantes. Quand même pas mal de choses en ce mois des morts, donc en novembre. Premièrement, si vous avez la chance d'aller dans le coin de Joliette, au Musée d'art de la ville, il y a une expo qui a l'air franchement audacieuse, pas tant dans son contenu que dans son approche, puisque le contenu, ce sont principalement des vieilles sculptures très classiques de Louis-Philippe Hébert, Alfred de la Liberté et Marc Aurel de Foix, Suzor Côté, des artistes fin 19e, début 20e siècle. Donc des sculptures qu'on a placées dans une sorte d'installation mise en scène très audacieuse de Nicolas Fleming, un artiste contemporain. Mais surtout, là où c'est intéressant, les commissaires de l'exposition ont bien pris soin de contextualiser les œuvres, affirmer bien clairement leur côté parfois péjoratif, ou en tout cas dépassé par rapport à la représentation des Autochtones dans les œuvres. Ils se sont associés au Centre d'amitié autochtone de Lanaudière et les œuvres sont commentées par des Autochtones sur vidéo, dont par Roger Chacouane, l'oncle de Joyce. Le résultat est, selon les personnes autochtones qui ont vu l'exposition, très intéressant et très respectueux. L'expo s'appelle « Regards en dialogue ». C'est présenté au Musée d'art de Joliette jusqu'au 10 janvier 2021. Pour l'instant, c'est seulement en ligne, en espérant que les conditions sanitaires changent et que l'exposition puisse être visitée en personne, parce que pour voir des sculptures, c'est sûr que c'est toujours plus intéressant. Donc, informez-vous bien des conditions de visite. Autre suggestion culturelle aussi, le film « Je m'appelle Humain », qui est un documentaire un peu sous forme cinéma direct sur la poétesse Inoue Joséphine Bacon. J'ai seulement vu la bande-annonce, ça a l'air magnifique, ça a été primé dans plein de festivals. C'est une œuvre de la réalisatrice Abenakis Kim Obonsawin et qui actuellement, on peut seulement voir le film dans la plateforme en ligne du Cinéma du Musée sur le site cinemadumusée.com. Autre film à voir, celui-là présenté par les RIDM, le film Apatride, ce n'est pas un documentaire sur nous. La réalisatrice Michelle Stevenson, son documentaire trace un parallèle entre le massacre des Haïtiens de 1937 perpétré par le gouvernement dominicain et la décision en 2013 de la Cour suprême de République dominicaine aussi de retirer la citoyenneté à toute personne ayant des parents haïtiens, avec effet rétroactif jusqu'en 1929, ce qui a rendu 200 000 personnes apatrides. On suit une jeune avocate, Rosa Iris, qui lutte pour le droit à la citoyenneté et la réunification des familles séparées. Le film s'appelle Apatride, ou Stateless en anglais. Tous les détails sur ridm.ca. Voilà pour le calendrier des apatrides anonymes du 19 novembre 2020. On retrouve tout de suite Marie-Ève pour d'autres actualités locales.
Ben oui, je vais récupérer mon sujet que Mathieu a tenté de me voler tout à l'heure. Je le soupçonne d'avoir essayé de se venger, d'avoir vendu son scoop pendant son premier micro.
Je sens que ça va se régler au Square Berry, ça.
Alors, oui, c'est ça. Donc, un peu à l'image du bras de fer entre Québec et Ottawa, d'ailleurs, concernant le traitement des demandes des candidats et candidates à la résidence permanente déjà sélectionnée par Québec. Depuis l'été 2019, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'aucun accusé de réception n'aurait été envoyé après l'envoi de ces dossiers. Donc, les gens savent même pas si la demande a été bien reçue, si elle a été perdue en chemin, si elle a été traitée ou pas. Faut dire que sans cet accusé de réception, les personnes font face à de grandes difficultés parce que, par exemple, si leur permis de travail actuel expire, elles peuvent se retrouver sans possibilité de le renouveler ou sans moyen de retrouver un nouvel employeur, mais aussi se retrouver sans couverture médicale puisque cet accusé de réception-là est nécessaire pour un prolongement de l'accès à la RAMQ. Prenons l'exemple de Zainatal, une travailleuse sociale arrivée de France au printemps 2017. Durant toute la période d'attente là, depuis Concernant justement les accusés de réception, elle a vu son certificat de sélection du Québec, qui est valide 24 mois, là, il faut s'en rappeler, arriver à expiration. Donc, comme c'est indispensable pour obtenir la résidence permanente, ce certificat de sélection, si son dossier de résidence permanente lui est envoyé, par exemple, pour un complément d'information, elle pourrait être obligée de recommencer ses démarches d'immigration qui sont déjà très coûteuses, et dans l'attente d'une réponse positive, ben elle pourrait être contrainte de quitter le pays également. Et encore une fois, ben là, la COVID-19 a le dos large parce que Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada justifie ces longs délais-là par la pandémie et le télétravail, mais aussi, de là le bras de fer, par la baisse des seuils d'immigration décrétés lors de l'arrivée au pouvoir de François Legault en 2018. C'est pas juste Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada qui le dit. Il y a même l'avocat en immigration David Chalk qui fait pression avec l'Association québécoise des droits des avocats en droit de l'immigration pour obtenir des réponses justement à une action d'Ottawa dans ce dossier-là. Pour lui, en fait, le constat est sans appel. Il dit même que depuis juillet 2019, les agents d'immigration fédéraux ont simplement cessé de traiter les demandes des travailleurs qualifiés québécois parce qu'ils avaient atteint leur seuil pour l'année selon les seuils d'admission établis par la province. Fait que, est-ce qu'il existe un accord genre secret entre Québec et Ottawa pour pas traiter ces demandes-là afin de vider l'inventaire de dossiers déjà en traitement? Officiellement, du côté de Immigration Canada, on ne nie ni ne confirme cette possibilité-là, mais on montre, c'est ça, du doigt les choix politiques du gouvernement caquiste, parce que dans les faits, selon le site web d'Immigration Canada, les candidats-candidates à une résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés du Québec doivent patienter en moyenne 26 mois avant d'obtenir leur résidence permanente après la réception de leur dossier. Puis si on compare avec le reste du Canada, cette même procédure-là, liée à l'immigration économique, prend 6 mois. Fait que, pis ça, c'est ça. Donc, et ça, c'est sans compter les personnes touchées par le programme de régularisation des demandeurs d'asile ayant travaillé là au plus fort de la pandémie, qui, elles non plus, ont toujours pas eu de nouvelles, puisque le programme n'a toujours pas vu le jour, et que le gouvernement Legault n'a toujours pas confirmé non plus s'il allait élargir les critères d'admissibilité ou pas, ce qui a évoqué un peu du bout les lèvres il y a quelques semaines. Donc, pour vous rappeler, là, le Trudeau, lui, souhaitait offrir l'accès à ce programme-là à tous les travailleurs, tous les demandeurs, pardon, ayant travaillé dans les établissements de santé dès ce printemps, que ce soit les préposés aux bénéficiaires, infirmiers, infirmières, mais aussi gardiens de sécurité puis les préposés à l'entretien ménager. Mais Québec, de son côté, voulait limiter l'accès au personnel de santé, ce qui a finalement été accepté par Ottawa. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça, là, pendant que Québec et Ottawa se renvoient la balle, ben il reste que c'est des milliers de personnes qui sont laissées dans un flou artistique et qui sont plongées dans l'anxiété, comme si la période actuelle n'était pas déjà assez anxiogène.
Ouais, parmi lesquels, il y en a qui ont attrapé la COVID en établissement hospitalier, comme, en tout cas, bref.
Voilà.
Les autres, enfin, on va retrouver Mathieu dans une minute, qui va nous parler d'autres actualités locales.
Des premiers peuples.
Or, merci Marie-Ève pour nous parler de ce jeu de ping-pong entre le provincial et le fédéral qui n'a pas lieu dans les autres provinces puisque les provinces autres que le Québec n'ont pas droit de regard sur l'immigration. Bref, toujours aux apatrides sur choc.ca, on cède le micro immédiatement à Mathieu pour plusieurs suivis sur des enjeux autochtones.
Oui, et juste peut-être dire, je m'étais préparé pour ce sujet-là aussi, finalement. Marie-Ève l'avait, ce qui est merveilleux. Mais j'avais noté aussi que pour le reportage de Radio-Canada dont a parlé Marie-Ève, le gouvernement du Québec, le ministère de l'immigration, n'avait pas voulu réagir. Et après, ils ont fait a sorti un autre article en disant « Ah, le ministère de l'Immigration québécois a finalement répondu aux questions de Radio-Canada en disant « Oui, dans les réseaux sociaux, on a entendu parler de ça dans la dernière semaine, on a vérifié avec Ottawa, puis c'est à cause de la COVID. » Fait que c'était à peu près ça.
C'est à cause de la COVID, c'est un classique.
Oui, enjeux autochtones suivis, je vais en faire quelques-uns. Ça bouge un peu au Québec, vous avez vu ça. Le 6 novembre dernier, Lafrenière et Legault ont annoncé 15 millions pour améliorer les relations entre les Premières Nations et les personnels soignants dans le réseau de la santé. Ça fait partie du 200 millions promis par Québec pour répondre aux recommandations de la commission Vient. Le gros cet investissement va aller à la formation. On parle aussi de notion de sécurisation culturelle, ça c'est pour l'ensemble des Premières Nations. Le 10 novembre, 3 millions pour un nouveau centre d'amitié autochtone dans la Naudière à Joliette, sur le terrain de l'hôpital. C'est assez symbolique, hein, si on se rappelle ce qui s'est passé.
Mais c'est là que ça, c'était le Joyce. C'est exactement.
Exactement. Le 16 novembre, cette semaine, les Atikamekw ont déposé un mémoire auprès des deux gouvernements, provincial et fédéral, pour définir plus en détail le principe de Joyce, dont je vous ai parlé à l'émission, pour en reparler quelques fois, qui vise à garantir un droit d'accès équitable, respect des connaissances et savoirs traditionnels amérindiens en matière de santé, autochtones, pardon. On parle aussi, dans ce mémoire-là déposé par les Atikamekw, de reconnaître le racisme systémique, évidemment, de mettre en place des campagnes de sensibilisation organisées par les Autochtones, créées par les Autochtones, un ombudsman, donc différentes choses dont on parle dans les médias. Donc ça, ça va faire son chemin. Le 17 novembre, ça c'est il y a deux jours, Lafrenière annonce avec Justin Picard de l'Assemblée des Premières Nations une nouvelle table politique, donc conjointe de discussion permanente, où Legault, qui n'était pas au point de presse, serait pour les discussions. Donc, voilà, ça, c'est des petits suivis ici au Québec. Ça bouge vite, on dirait, mais on ne sait pas pour combien de temps ça va bouger, par exemple. C'est ça le problème.
Ce serait bien qu'on rétablisse des services comme des hélicoptères ambulances ou plein de trucs qui ont été coupés, mais enfin.
Il y a plein de choses, puis dans d'autres domaines, en culture, etc. Donc, voilà. Sinon, je vais vous parler, pour les quelques minutes qui me restent, une histoire qui fait beaucoup jaser au Manitoba et dans l'Ouest canadien. Une femme autochtone qui a été violentée dans un détachement de la GRC a lancé une poursuite, l'a peut-être entendu parler. On parle encore de violences policières contre des femmes autochtones, encore de la gestion, entre guillemets, des enjeux sociaux, des problèmes sociaux par la police. Donc, le 6 janvier 2018, deux agents de sécurité communautaire, retenez ce terme, agents de sécurité communautaire, ont transporté Genesta Garson, une femme de 19 ans de la nation Cree Tataskwiwak, à un point de service de la GRC à Thompson, au Manitoba, parce qu'il la soupçonnait d'être ivre. Mais finalement, elle a pas passé la nuit en cellule. Elle est plutôt partie en ambulance cette soirée-là, car un agent de sécurité l'a frappée et elle a perdu connaissance. Je raconterai pas tout l'événement. Il y a même une vidéo de CBC qui circule, les caméras de surveillance, qui est assez choquante là. Dans les articles, on peut la voir. Donc, les agents de sécurité communautaire peuvent, selon la loi sur les services de police du Manitoba, détenir une personne si elle se trouve à la fois dans un lieu public et en état d'ébriété ou droguée. Écoutez ça. Ces 5 dernières années, dans le nord du Manitoba, les agents de la GRC, ont eu recours 27 000 fois à la loi provinciale sur la détention des personnes en état d'ébriété. Ils sont pas arrêtés, ils sont amenés pour dégriser officiellement. Mais des fois, ils mangent des volets, comme on a vu. Le nombre de personnes détenues en vertu de cette loi est 6 fois plus élevé dans le nord de la province que dans la capitale à Winnipeg. L'avocat de Mme Garson, Rohit Gupta, est d'avis que la loi est utilisée à outrance envers les Autochtones. Il remarque qu'un nombre élevé d'Autochtones se retrouve dans une cellule pour ce type d'incident. Je le cite, « Si ça avait été une autre personne, on l'aurait reconduite à la maison. Elle aurait simplement reçu un avertissement des policiers. » Donc, quand on parle de racisme systémique bien appliqué par la police et les lois, c'est un bel exemple. Évidemment, Mme Garson a été accusée de voie de fait contre un agent de sécurité parce qu'elle s'est faite frapper. Ça a été finalement suspendu suite à la médiatisation de l'affaire. Elle a déposé une plainte contre la GRC, mais là, dans les jours après, elle a été approchée à maintes reprises à sa résidence de Split Lake, à 140 km au nord de Thompson, par différents agents de la GRC qui lui demandaient d'annuler sa plainte.
Absolument pas le droit de faire ça.
Attends. Elle a finalement succombé à la pression et au harcèlement. Elle a signé pour annuler sa plainte, mais là, elle a finalement plus tard déposé la fameuse poursuite en dommages d'intérêt dont je vous parle contre la GRC, le procureur général du Canada, les agents de sécurité, la GRC. Le surintendant de la GRC du nord du Manitoba explique que des agents de la GRC se sont rendus chez elle pour tenter de régler de façon informelle sa plainte, une partie du processus selon lui. Ah non, on en apprend des choses extraordinaires. Ensuite, plusieurs chefs des Premières Nations au Canada ont demandé une enquête indépendante, on parlait d'une agression brutale et d'un déni de justice. aujourd'hui même, je termine là-dessus, le ministre de la Justice du Manitoba, vous allez voir, c'est du charabia, de la bureaucratie. Le Manitoba, c'est vraiment une autre planète, malgré qu'il y a des ressemblances avec ici. Le ministre de la Justice s'engage à offrir une meilleure formation aux agents de sécurité communautaire qui ne sont pas des vrais policiers. Il promet une meilleure surveillance de ses agents. Cependant, il affirme ne pas être prêt à enquêter davantage sur ce cas précis, parce que l'unité d'enquête indépendante du Manitoba ne peut pas se charger du dossier, parce que c'est pas des policiers. Et cette unité d'enquête indépendante ne précise pas qui devrait se charger de l'enquête. Le ministre explique que la province est en train de revoir la loi sur les services de police, et cette loi déterminera quels cas seront pris en charge maintenant par l'unité d'enquête indépendante. Et il finit en disant, le ministre, vouloir attendre la fin de la poursuite pour agir. Donc, on parlait du BI il y a deux semaines ici, mais au Manitoba, qui enquête sur qui, pourquoi, comment? Ça, c'est aujourd'hui la sortie du ministre de la Justice du Manitoba, parce que ça fait une semaine, ça roule pas mal l'histoire. Donc, c'est vraiment la maison des fous.
C'est kafkaïen. On vous retrouve dans une minute pour le mot de la fin déjà. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. L'émission est presque terminée. J'espère que tu avais fini, Mathieu.
Oui, oui. Ben, je voulais juste dire que c'est une histoire extraordinaire. Heureusement, la femme est toujours vivante, est en vie puis est en forme. C'est ça le bon point.
Bon, une petite bonne nouvelle.
Madame Carson.
Dans le lot. Donc voilà nos coordonnées. On a une page Facebook à Patriotes Anonymes que vous pouvez consulter. Beaucoup de liens complémentaires. Vous pouvez aussi passer par là pour nous contacter, pour nous écrire. Il y a aussi l'adresse apatridesanonymes@resist.ca. Vous pouvez nous écouter en direct tous les deux jeudis 18h30 sur choc.ca ou dans notre site web apatridesanonymes.info. J'ai été en compagnie de Marie-Ève.
Oui.
Merci Marie-Ève à la technique, à la recherche, au dossier UK et en compagnie de Mathieu.
Ouhou.
Suivi provinciaux, fédéraux, autochtones. On les remercie bien bas pour toute la recherche, la synthèse, et moi j'étais à l'animation, c'était Simon.
Merci Simon pour cette belle animation.
Merci Simon.
Et
beaucoup
toute
de
ta recherche aussi.
Beaucoup de stock. Hein?
Cordialement ouais. Vôtre. On se revoit dans... je vois des faces bizarres. On se revoit dans deux semaines, ça tombe le 3 décembre. On espère que vous serez au rendez-vous. Normalement, on sera encore en direct en studio. On se laisse avec de la musique. Le groupe palestinien jordanien 47 Soul, on qualifie le groupe comme un des porte-étendards du son Shamstep, qui est un mouvement d'artistes du Proche-Orient qui combine des instruments électroniques, donc des sons plutôt dance avec des éléments traditionnels de la musique dabke. On va entendre la pièce Border Control de l'album du même nom. Le texte compare différents murs dans le monde, dont les murs d'Israël et celui entre les États-Unis et le Mexique. Ça vient tout juste de sortir l'été dernier. C'était l'émission des Apatrides Anonymes sur choc.ca. Merci encore beaucoup, Mathieu Marie-Ève. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Bonne soirée. Tout le monde, faites attention à vous et on se retrouve le 3 décembre. On y va avec 47 Soul Border Control.
À bientôt!
la que definirá tu vida, que separa tu pasado de un futuro sin huella, condenado sin la visa. Esta línea no se pisa, ni se encuentra arbitrario con razones indecisas. Permiso rechazado, juntos enfrentamos injusticias del Estado. Palestino, latino, andino, no será callado. Palestino, latino, andino, no será callado.
It's border control, congesting our soul, taking its toll on us all. We're gonna dissolve Mexico, Bethlehem, war. If you hear us, heed the call.